Céline, elle est partie. Et merci aussi pour le groupe de louanges. Je crois qu'ils mettent le beans dans le camp de l'ennemi. Hein. Amen. Non, je ne pouvais pas. Alléluia, Jésus. Seigneur, on te loue vraiment pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci parce que tu parles. Tu es vivant au milieu de nous. On t'adore. On est heureux et fiers de t'appartenir, d'appartenir à ton peuple, de te suivre. On est heureux et fiers de qui tu es, de qui tu es en nous, de ce que tu es en train de faire. Et on te bénit, Père. Je prie vraiment de bénir ce temps maintenant au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines, j'avais parlé, je voulais te dire merci vraiment de pouvoir partager encore ce qui est sur mon cœur. Ça fait quelques semaines que ça travaille. Et j'avais parlé de l'aigle il y a quelques semaines. Et ce que je sentais préparer, venir en moi pour aujourd'hui, je ne savais pas, je voyais pas que c'était relié, puis en fait c'est relié. Et c'est dans un livre de June Lewis, je ne sais pas si la jeune génération connaît, June Lewis. C'était une enseignante pour les nations, qui est, en tout cas qui a béni notre nation aussi, qui a amené des révélations très importantes. Et en particulier un livre qui s'appelle « De la poussière à la gloire ». Et je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à quitter l'odeur de poussière qui nous a toujours entourés et commencer à vivre de l'atmosphère et de l'odeur de la gloire. Qui en veut de ça ? Amen. Donc j'ai envie de lire aussi quelques passages, juste un petit texte. C'est la vision de l'aigle. Un jeune homme eut la vision d'un aigle posé sur une grosse branche d'un arbre. Celle-ci était pourrie. Et sous le poids de l'aigle, elle craqua et se brisa avec un grand fracas. Mais l'aigle, au lieu de tomber avec la branche, déploya ses ailes, prit son envol dans le ciel. Le jeune homme demanda au Seigneur ce que cela voulait dire. Et Dieu lui répondit, « Avant mon retour, la terre entière sera semblable à cette branche pourrie et sans force pour subvenir aux besoins de ses habitants. Mon peuple doit être comme cet aigle. Il doit apprendre dès maintenant à s'élever par l'esprit et à vivre au-dessus du domaine naturel. » Il doit apprendre que je suis sa source, quelles que puissent être les conditions environnantes. C'est ce que le Seigneur nous a déjà dit ce matin. Qu'on apprenne à voir aux choses invisibles, à commencer à se nourrir des choses d'en haut. Amen. Le Seigneur m'a parlé, donc John Lewis continue, le Seigneur m'a chargé de parler à son peuple au sujet de son repos, de ce qu'il pourvoit pleinement et nous protège par sa présence. Dieu veut faire cela de la même manière qu'il le fit à deux reprises principales dans l'histoire, lors du déluge pour notre Père Noé et lors de la sortie d'Égypte pour la nation d'Israël. Voilà, c'était ce que John Lewis partageait. Donc, je voudrais continuer avec ce qui est sur mon cœur. Pour illustrer l'œuvre du salut de Dieu, je voudrais parler du mot « arche », symbole du salut. Donc, il y a une première arche, l'arche de Noé. 1 Pierre 3,20 nous dit « La patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. » Cette eau est une figure du baptême. Noé est l'image d'un peuple nourri et protégé pendant un temps de... C'est dommage, on ne voit pas beaucoup. Voilà, enfin, Salomé m'a trouvé une belle arche. Voilà, vous pouvez l'imaginer, c'est l'arche qui a sauvé 8 personnes. Et grâce à ces 8 personnes qui ont été sauvées, c'est nous qui existons, hein. Si on est là, c'est grâce à l'arche de Noé, c'est grâce à Noé qui est un père pour nous. Amen. Avec sa famille, ils ont survécu dans une arche à une catastrophe incroyable. Cette arche flotte... Oh ! Merci ! Tu es mon héros. Cette arche flottait au-dessus du jugement de mort, représenté par les eaux qu'ils entouraient. Ils ont échappé au jugement qui touchait les nations, qui touchait la terre entière grâce... à cette arche. Ils étaient au milieu du jugement, en plein milieu, mais ils n'en faisaient pas partie. C'est l'application du psaume 91. Parce qu'il faisait de Noé a fait de l'Éternel sa demeure. 1000 sont tombés à sa droite, 10 000 à sa gauche, mais il n'en est pas, mais un seul, lui, il n'est pas mort, il n'a pas été touché. Le mot arche en hébreu est teba. Alors le sens souvent donné, c'est coffre, boîte, mais selon une étude poussée, il est possible que plutôt le sens de ce mot soit d'origine égyptienne et qu'il soit sauveur de la vie. Sauveur de la vie. Noé et son arche sont une image de la foi dans le Seigneur Jésus. Noé signifie se reposer tranquillement, de la même façon que Jésus se reposait tranquillement dans la barque alors que la tempête faisait rage. Hein, vous connaissez tous cette histoire de la barque. Il y avait la tempête qui soufflait, les flots étaient démontés. Et c'était tellement grave que les disciples, ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Pourtant, c'était des marins. La tempête, elle allait submerger la barque. Ils savaient que c'était fini. et voilà que Jésus dormait. Et c'est ça le sens de Noé, c'est même le sens de la barque, de l'arche de Noé. Il s'est reposé tranquillement au sein même du jugement qui touchait les nations, parce qu'il se reposait dans l'arche. L'arche, c'est le symbole de notre foi. Le Seigneur avait dit à Noé, tu entreras dans l'arche, toi, ta femme et tes fils, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Cela fait penser au verset des Actes qui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous entrerez dans l'arche, vous entrerez dans la foi. La foi est l'arche préparée par Dieu pour sauver des nations entières. L'arche de Noé était construite avec du bois de gopher, mot proche du mot kopher, qui signifie prix d'une vie, rançon, qui a donné Caporette le propitiatoire. Le bois de l'arche nous parle déjà du prix d'une rançon qui a été payée. Et ce mot-là, on va le retrouver dans le propitiatoire plus tard. L'arche du salut, la foi a été construite au prix d'une vie. La foi que tu as reçue, la foi qui habite en toi, a été construite au prix d'une vie, au prix d'une rançon divine. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'arche ? Il avait construit une porte et il fallait entrer dans la porte, par la porte, dans l'arche. Ce que ce matin Romulo nous a fait faire, le Seigneur, on est entré. Et par ce geste, on est entré par la porte et nous entrons par la porte de la foi qui est Jésus. Et en entrant, nous sommes entrés dans la foi. Nous avons fait un pas, nous sommes entrés dans la foi. Nous y habitons, nous y sommes et nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri, quels que soient les jugements qui doivent toucher les nations autour de nous. Et la colombe, vous vous rappelez que j'avais parlé de la colombe, elle est retournée dans l'arche parce qu'il n'y avait pas de repos pour ses pieds sur la terre. De même, nous aussi, nous retournons à l'arche, comme la colombe. Pourquoi la colombe, elle est retournée? Parce qu'elle n'avait pas de lieu de repos pour ses pieds. Il lui fallait un autre lieu de repos, il fallait qu'elle revienne au lieu de repos normal. Et l'arche était son lieu de repos. Nous aussi, comme la colombe, nous retournons à notre lieu de repos, notre arche intérieure, la foi. La foi en moi est un lieu de repos. C'est mon lieu de repos. Je retourne à la foi qui habite en moi. Il n'y a pas de demeure pour moi à l'extérieur. Quoi que ce soit que le monde peut me proposer de tentant ou d'intéressant. La seule chose qui va me garder, c'est la foi. Deuxième arche, elle va vous surprendre. Exode 2, 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Vous savez de qui je parle ? Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Et elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Une caisse de jonc. Vous savez comment c'est le mot en hébreu ? Théba, une arche. L'arche de Noé a été une alliance avec les nations. Dieu a fait alliance avec un homme pour sauver cet homme et sa famille. Et au travers de cet homme et de son salut, il a sauvé des nations entières. On a l'impression que le Seigneur ne voulait pas des nations. Il a déjugé des nations et pourtant il a sauvé un homme. On s'est dit quelle injustice. Et non, parce qu'il a sauvé des nations. Toutes les nations qui aujourd'hui existent, ce sont celles qui ont été sauvées par Dieu au jour du déluge. Tu as été sauvé par Dieu au jour du déluge. Dieu avait une alliance avec Noé et au travers de Noé, il a fait alliance avec toi. Il y a une alliance qui court aujourd'hui avec toi grâce à ce que Dieu a fait avec Noé. Et qu'est-ce que Dieu a fait ensuite? Il a sauvé un autre homme. Il a sauvé un homme qui s'appelle Moïse pour au travers de Moïse faire une alliance avec lui et ensuite faire une alliance avec un peuple entier et sauver ce peuple, le sauver de la mort, le sauver de l'esclavage. Et alors il a fallu une arche. Une arche de la foi. Une arche parce que sa maman a trouvé que cet homme, que cet enfant était beau. Et elle a voulu le sauver. Elle a eu la foi. Elle a construit une arche. Le message de l'Ancien Testament est clair au travers de ce mot Théba. Le Seigneur a sauvé deux des plus grands hommes de l'histoire par la création de deux arches du salut. Il a passé des alliances avec eux, Vito nous parlait des alliances, sauvant grâce à eux des peuples et des nations. Ces deux arches pointent vers le sauveur de l'humanité, qui a créé une arche de salut magnifique, la foi en son nom. Vous allez me dire, mais il y a une arche qui manque. Vous vous rappelez de cette arche de l'Alliance? Eh bien, chose étonnante, c'est que l'arche n'est pas le mot Théba en hébreu. C'est un autre mot. C'est comme si l'arche de Noé, qui était une des figures énormes de notre histoire, de l'histoire de la terre, de l'histoire de la parole, elle pointe vers une certaine arche pour l'Ancien Testament, parce que c'est l'arche de Moïse, c'est l'arche pour sauver la nation d'Israël. Tout l'Ancien Testament parle de l'alliance de Dieu avec Israël. Et l'arche de Noé, qui est l'arche pour les nations, pointe vers Israël. Le mot commun avec l'arche de Noé, c'est l'arche de Moïse, et pas l'arche de l'Alliance. Par contre, si je passe dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Je trouve de nouveau l'arche de Noé. Elle est présente dans le Nouveau Testament. Je vous l'ai déjà lu le texte de 1 Pierre. Et ce mot est kibotos. Et l'arche de Moïse, on n'en parle plus. L'histoire d'Israël, le focus sur l'histoire d'Israël est pour l'instant terminé. Le Nouveau Testament ne pointe pas là. Il pointe vers maintenant une alliance avec des nations. Et qu'est-ce qui se passe dans le mot kibotos, comment il revient? C'est l'arche de l'alliance. Kibotos, c'est l'arche de l'alliance. Vous la voyez un petit peu, Christophe? Tu ne veux pas me mettre à voile noir, s'il te plaît? Que vous la voyez, la belle arche. Waouh! L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance placée dans le lieu très saint. Amen. On voit les ailes, on voit les bâtons, on voit le coffre, on voit le propitiatoire sous les ailes des chérubins. D'accord? Toutes ces choses, vous les avez repérées? Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Et la gloire de Dieu, la lumière de Dieu qui jaillit de l'arche. Cette fois, l'arche de Noé a changé de focus. Elle pointait dans une direction. Il y a eu un réglage de l'arche, de la direction du pointage. Là, pointage vers l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Pourquoi cette différence de pointage? Parce que maintenant, il y a un nouveau message. Parce que l'arche de Noé parlait d'une alliance avec les nations. Et le Seigneur revient à son alliance. Et il a fallu qu'il sauve un homme. Un homme, comme on a sauvé Moïse de la mort, Jésus a été sauvé de la mort. Afin que Jésus bâtisse une nouvelle alliance. Jésus a été sauvé et il a construit son arche. L'arche de la foi dans lui. Et cette alliance, elle fonctionne comme par le message de l'arche de l'alliance. Que représentait l'arche de l'alliance? C'était un coffre de bois d'acacia recouvert entièrement d'or pur. Il contenait les tables de la loi pendant toute la traversée du désert. Et d'un coup, plus tard, on a rajouté le bâton d'Aaron et la manne dans un vase d'or. Le mot acacia dérive d'un mot qui signifie châtier, percer. Encore une fois, le bois de l'arche nous parle de la mort de celui qui a donné sa vie pour nous, pour construire son arche. Elle était surmontée d'un couvercle en or qui était le propitiatoire, le fameux caporet. C'était ce couvercle qui était aspergé de sang lors du jour du grand pardon, une fois par an, par le grand chef sacrificateur. Au-dessus de du couvercle se trouvaient deux chérubins aux ailes déployées. Le propitiatoire a aussi le sens de siège de miséricorde. Vous le saviez? En anglais, c'est souvent mercy seat. Le siège de miséricorde. C'est ce que le Nouveau Testament appelait le trône de grâce. Le trône de grâce, c'est le fait qu'il y avait une arche d'alliance, le Seigneur avait traité une alliance avec son peuple, il y avait du sang qui était versé, il y avait la parole qui avait été donnée, il y avait les chérubins qui étaient là, et le Seigneur venait siéger entre les chérubins. La Shekinah, la gloire de Dieu, descendait entre les chérubins. Et c'était le trône de grâce. Et le peuple de Dieu pouvait s'approcher, le sacrificateur pouvait s'approcher une fois par an dans le lieu très saint pour s'approcher du trône de la grâce à cause du propitiatoire où le sang avait coulé. Pourquoi des chérubins? Vous saviez ce que faisaient les chérubins dans l'Ancien Testament? Vous vous rappelez où c'est qu'on a vu les chérubins la première fois? Le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils connaissaient la présence de Dieu. Ils vivaient constamment dans cette présence. Et quand le péché est venu, ils ont été privés de la présence. Ils ont été mis hors du jardin. Et les chérubins étaient là, costauds, puissants, armés de l'épée. Et ils fermaient l'entrée de la présence de Dieu. Ils ne pouvaient plus entrer dans leur jardin. Et là, le message des chérubins dans l'Arche de l'Alliance, il a changé. Il a dit, je ne protège plus la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est ouverte. Tu peux entrer, et non seulement tu peux entrer, mais je t'invite. Je déploie mes ailes et je t'invite. Je couvre la présence de Dieu de mes ailes et viens à la présence de ton Dieu. Viens au trône de la grâce. Je ne te reçois plus avec l'épée. Parce que l'épée, elle a percé le Fils de Dieu. à ta place. Et la porte est ouverte. Toi, tu entres dans la présence de Dieu. De la même façon que le voile a été déchiré, le lieu très saint est ouvert tout entier. Je peux entrer complètement en tout temps. La parole, le Nouveau Testament, c'est son enseignement. Je peux entrer en n'importe quel moment, là où le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois par an, avec crainte et tremblement. J'entre en tout temps dans la présence de Dieu, devant la gloire de Dieu, la Shekinah, afin de bénéficier de son amour et de sa provision. À cause de la présence de Dieu, elle était sainte. Vous vous rappelez, hein, les deux hommes qui ont touché l'arche? Elle a amené la bénédiction au peuple en alliance avec Dieu et la malédiction aux autres peuples. Dans le désert, la présence de Dieu au travers de l'arche a pourvu aux besoins de plus de 5 millions de personnes en nourriture, en eau, en chaleur la nuit parce qu'elle était accompagnée du feu, en humidité pour le jour, elle était accompagnée de la nuit et les vêtements ne se sont pas usés. Vous savez que pour la nourriture, il faudra un train de 1,5 km de long de nourriture tous les jours. Tous les jours. En eau, c'est un train de 25 km de wagon-citerne pour alimenter en eau le peuple, le bétail, tout ce qu'il fallait faire avec l'eau. Et la présence de Dieu a amené cette bénédiction par la manne, par le rocher qui délivrait un fleuve. Ce n'est pas un ruisseau qui coulait du rocher, c'est un fleuve d'eau vive qui alimentait une nation tous les jours en millions de mètres cubes d'eau. Amen. Vous vous rendez compte qu'est-ce que Dieu dispose maintenant de nos jours pour nous? Cette présence, au travers de l'arche, inspirait la terreur au peuple qui entourait Israël. Elle était placée dans le temple, dans le lieu très saint, ou encore le saint des saints. Cette arche servait de trône à la présence de Dieu, appuyée sur l'alliance par les commandements de Dieu, sur le sang des animaux et couverte de la présence des anges. Qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui? Quelle est cette arche de l'alliance? Je suis entré dans l'arche comme Noé, je suis entré dans la foi. Je suis entré dans le salut, j'ai été pardonné, j'ai été lavé, je suis couvert, j'ai accès à la présence de Dieu. Et qu'est-ce que me dit l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance, elle était placée dans le lieu très saint. Et notre lieu très saint, c'est quoi? C'est notre esprit, c'est notre cœur. Et qu'est-ce que c'est l'Arche? C'est ce que Jésus a bâti au travers de l'offrande de sa vie pour notre salut, c'est la foi. Cette foi dans laquelle je suis entré dans la foi, parce que j'ai accepté Jésus, et maintenant la foi, elle entre en moi comme une arche d'alliance. Cette foi en moi, elle est appelée à pourvoir comme l'arche a pourvu. Elle est appelée à distiller la terreur de Dieu autour de moi. Comme on disait ce matin, l'ennemi ne pourra pas toucher à ta vie, ne peut plus toucher, parce que la foi de Dieu, l'arche de Dieu est là, et quand il y a l'arche de Dieu, tout vient avec. La présence de Dieu est là. La provision de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, la sainteté de Dieu est là, la terreur de Dieu est là pour les ennemis. Alléluia Jésus. Qu'est-ce qui a encore accompagné l'arche? Souvent on dit, je m'approche du trône de la grâce, et le trône de la grâce, on le voit tout là-haut. Mais le trône de la grâce, il est avec l'arche, il est sur l'arche. Le trône de la grâce, il habite dans ta foi. Cette foi qui habite en toi désormais, au sein de ton cœur, de ton être, il y a le trône de grâce qui habite. Le Seigneur a déplacé son trône de grâce pour venir habiter au milieu de son peuple, et non seulement au milieu de son peuple, mais au milieu de toi, en toi. Il a déplacé le trône de grâce du ciel à ton cœur. Il est venu habiter dans ton cœur, avec sa gloire, avec ses anges. Les anges de Dieu sont venus habiter dans ta foi. La foi est comme une porte ouverte vers le ciel. C'est comme l'étape entre le moi et le ciel. Et la distance qui me séparait du ciel de gloire a été enlevée. Et la foi me relie directement au ciel de gloire. Elle est comme un écrin qui est placé dans notre lieu saint, dans notre cœur, et qui est faite pour accueillir Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit, avec toute leur gloire, leur lumière, leur vie, leur provision, leur protection. Elle est comme un camp de base dans une expédition. Tout est acheminé dans le camp de base. Les provisions, le matériel. Le camp de base devient un lieu de refuge où ils peuvent se replier en tout temps, ceux qui font l'expédition. Un lieu de paix, de tranquillité, de repos. Le Seigneur a placé en toi un camp de base. C'est la foi. C'est l'écrin, c'est ce qui contient toute la gloire de Dieu, toute la présence de Dieu, toute la provision de Dieu, ça habite en toi. C'est ton lieu de repos maintenant, toi aussi c'est ton lieu, et tu viens habiter là. Alléluia. Alléluia. La foi est comme une porte qui ouvrait le ciel. Jacob a vu une échelle, tu peux le montrer ? L'échelle. Vous vous rappelez cette échelle de Jacob ? Cette échelle de Jacob, elle reliait la terre au ciel. Et les anges montaient et descendaient. Et la foi, c'est devenu comme cette échelle qui relie ton cœur au ciel. Mais le ciel, il n'est plus là-haut, il est aussi là. Et l'échelle est devenue juste le lieu entre le coffre de l'Alliance, où ton être, ton lieu saint, et le trône de grâce qui est au milieu du lieu saint. Elle n'est pas nécessairement, elle ne fait pas des milliers de kilomètres, elle ne fait pas un kilomètre. Elle fait même pas un mètre, elle fait juste la distance qui sépare ton cœur et le trône de grâce. C'est relié complètement, mais c'est relié par une échelle de grâce. Le bas de l'échelle est posé dans ton cœur. Le haut de l'échelle est posé sur le trône de grâce. Comment il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il y a dans le trône de grâce ? Il y a la grâce. Le haut de l'échelle est lié à la grâce. Le bas de l'échelle est lié à ta foi. C'est comme si foi et grâce ne faisaient qu'une seule et même chose. La grâce, elle est appelée, c'est ce qui a préparé le salut pour toi, c'est ce qui t'a aimé dès l'éternité, c'est ce qui pourvoit à tous tes besoins, c'est tout ce que Dieu a pourvu, préparé pour toi et qu'il a appelé grâce. Foi, c'est la grâce qui est venue habiter dans ton cœur pour recevoir ce que la grâce dans le ciel a préparé pour toi. Ta foi, elle prend les choses de la grâce, elle reçoit la grâce, elle est reliée à la grâce. C'est comme si foi et grâce n'étaient qu'une seule et même, un seul et même être. Un prépare, l'autre reçoit. Et les anges communiquent entre foi et grâce, sans arrêt. Sans arrêt, il y a des allers-retours. Ta foi monte en intercession, en demande, en supplication, en louange, en adoration, en amour, en obéissance, en fidélité. Et grâce répond en bénédiction, en faveur, en amour du Père, en protection, en provision, en sécurité. Ce matin, Anne, elle m'a reçue en me disant qu'elle sentait vraiment qu'il y avait quelque chose de... Tu as dit ça comment, Anne ? Tu veux bien juste le redire là où tu es ? Non, juste là où tu es, s'il te plaît. Voilà, c'est ce qu'il y avait ce matin. Quelque chose de très gras. Tu veux bien montrer l'image, Salomé ? Quelque chose de très gras. Gras de l'onction de Dieu. Gras de l'amour de Dieu. Est-ce que vous aimez le foie gras ? Je crois qu'en France, on aime le foie gras. Vous avez aimé le foie gras ? Eh bien, vous allez aimer son féminin, vous allez aimer la foie grasse. Vous allez aimer la foie grasse. Pleine de la... Et vous avez raffolé de la foie grasse ? Vous allez adorer la foi grâce. La foi grâce. La foi grâce qui veut pourvoir. La foi grâce qui veut te donner une foi grâce. Grâce de la présence de Dieu. Grâce de l'onction du Père. Grâce de l'amour de Dieu. La nation de France était connue pour son foie gras. Qu'elle devienne connue pour sa foi grâce. Et qu'elle devienne connue pour la foi grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous sommes une nation qui a renié la foi à cause de sa puissance de raisonnement. Le Seigneur ne rejette pas ta raison, France, mais il veut la soumettre à la foi. Que la foi redevienne le centre du cœur de France. Mais ce ne sera pas une foi rigide, ce ne sera pas une foi dure, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais ce sera une foi grasse, une foi pleine de grâce, une foi pleine de graisse. Une foi pleine de l'onction de Dieu, de l'amour du Père, de la richesse de Dieu. Une foi qui va nourrir d'autres nations. Amen. Habituons-nous. Habituons-nous. 2 Pierre 1, 1. Vous avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus. Tu as reçu une foi d'un grand prix. Et cette foi, elle habite dans ton cœur. Et quand foi est venue, foi n'est pas venue toute seule. Elle a amené tous ses amis. Vous rappelez l'image, quand le Seigneur dit, quand on chasse un mauvais esprit de notre cœur, si la maison elle est nettoyée propre et qu'on remplit pas, il vient et il emmène 50 000 autres avec lui. Et foi, elle fait la même chose. Foi, quand elle vient dans ton cœur, elle rameute tout le monde avec. Elle dit, il y a de la place. Je suis reçu dans une personne. J'ai été reçu dans un temple. Venez avec. Amen. Tu es devenu un lieu, le lieu d'habitation de la foi. Et cette foi est vivante. Cette foi est sainte. Cette foi est d'un grand prix. 2 Timothée 1:5. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, d'y habite aussi en toi. Tu as reçu une foi d'un grand prix, tu l'as héritée. On t'a transmis une foi d'une façon ou d'une autre. Elle a habité, c'est ton père ou ta mère dans la foi, et c'est ton grand-père dans la mère dans la foi, etc. Et cette foi, mais désormais, elle habite en toi. Tu as reçu un trésor d'un grand prix. Tu es appelé à chérir ce trésor. Tu es appelé à aimer ce trésor. Tu es appelé à le serrer sur ton cœur, ce trésor de foi. Cette foi, elle vaut cher. C'est comme si le temple en lui-même, c'est pas ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui était important dans le temple? C'était l'arche de l'alliance qui était au sein, dans le lieu très saint du temple. C'est comme si l'ennemi, c'est pas toi qui le gêne. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est la foi qui est en toi. Et cette foi, il ne la supporte pas. Cette foi, il n'en veut pas. Et cette foi, il la combat. Et c'est pour ça que Paul nous appelle à combattre pour cette foi. On doit combattre pour la foi qui était transmise, qui nous a été transmise, et que l'ennemi veut torpiller. L'ennemi ne veut pas de la foi qui habite en toi. Il ne veut pas que ta foi commence à s'exercer. Il ne veut pas que ta foi commence à produire du fruit. Elle ne veut pas que ta foi commence à recevoir les choses d'en haut pour les amener sur la terre. Ta foi, il va essayer de la rabaisser au minimum. Il va te rabaisser toi pour que toi tu rabaisses ta foi. Il va t'attaquer toi pour que toi tu n'acceptes plus à ta foi et que tu ne lui laisses pas la place. Honore la foi qui est en toi. Alléluia. Alléluia. C'est comme, vous savez, le débarquement. Il y a un débarquement sur les plages de Normandie. Il y a l'armada des alliés qui est arrivée, l'armada de l'Alliance. Elle est arrivée, et là, elle était attendue. La France était occupée, on ne voulait pas de cette armada. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Il a fallu qu'elle pose pied, il a fallu qu'elle résiste à l'envahisseur, et il a fallu qu'elle construise une base. Une base d'accueil, une base de lancement, une base de provisionnement, comme un camp de base. Et l'armada, après, quand le camp de base a été posé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené les provisions. Toute l'armée est arrivée. Le nourriture, le matériel, les tanks, tout, les hommes, tout était déversé par ce camp et envoyé dans le pays de France. La foi en toi, la foi qu'on accueille dans notre pays est comme un camp d'installation, comme un camp d'envahissement, d'invasion, comme un camp de débarquement. Et toute l'armada de l'Alliance est derrière. Toute la provision du Père, tout l'enrichissement du Père, toute la nourriture, toutes les armes, elles arrivent au travers de ta foi. Nous accueillons la foi. Nous faisons alliance avec la foi. Il va falloir qu'on brise des alliances. Il va falloir qu'on brise les alliances du doute, les alliances de crainte, les alliances, toutes mauvaises, fausses alliances qui sont en nous. On ne peut plus faire alliance avec l'ennemi. On ne peut plus être collabo avec l'ennemi. Il va falloir qu'on abandonne la collaboration avec l'ennemi. Et il va falloir qu'on les brise, qu'on les cloue à la croix et qu'on les chasse loin de nous et loin de la terre de France. Et il va falloir qu'on fasse alliance avec ce qui arrive, avec la foi, avec le projet de Dieu, avec le plan de Dieu pour ma vie et pour ma nation. Je fais alliance, une alliance sainte, une alliance sainte. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que tu es sauvé, la grâce a préparé le moyen de ton salut et ta foi le reçoit. C'est le moment de recevoir l'abondance de la grâce au moyen de la foi qui habite en nous. La foi est vivante. Vous me recordez encore quelques minutes? Please. La foi, c'est un autre nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on connaissait Yahvé Tsebaoth, Jéhovah Jireh, les noms de Dieu associés à des noms d'action, de concept, d'idées, de vertus. Jésus est Jésus foi. Jésus est Jésus, sagesse. Jésus est Jésus, lumière. Il est Jésus, vie. Il est Jésus, provision. Jéhovah, Jiré, c'est le nom de Jésus. Jésus, pourvoit. Il s'appelle aussi Jésus, foi. Jésus, quand tu te tournes vers lui, il vient habiter en toi comme Jésus, foi. Et Jésus, foi, invite Jésus, grâce, à déverser Jésus, vie et Jésus, lumière dans ta vie. Jésus a plein de facettes. C'est comme quand on voit il y a dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse. À un moment donné, tu te tournes et tu vois le lion. Puis tu te tournes de l'autre côté, tu vois l'agneau. Puis tu te regardes en haut, tu vois l'aigle. Et puis tu regardes en bas, tu vois le veau. Jésus a plusieurs apparences. Et c'est de la même façon avec les vertus de la parole et toutes ces choses qui sont positives. Je me tourne d'un côté, c'est Jésus foi. Je regarde là-bas, c'est Jésus vie. Là, c'est Jésus lumière. C'est Jésus grâce. C'est Jésus bénédiction. C'est Jésus provision. Où que je me tourne, je vois Jésus qui agit dans ma vie d'une certaine façon. Et Jésus foi, c'est ce qui vient s'ancrer en moi pour recevoir toutes les autres facettes de Jésus. Quand j'accueille la foi, j'accueille Jésus, j'accueille la porte du ciel, afin que les bénédictions du ciel découlent dans ma vie. J'aimerais laisser juste une prière dans le psaume 132. David jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose et je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. David, Jésus, cherche un lieu pour le Tout-Puissant, pour l'Éternel, pour le Dieu de Jacob, pour ton Dieu. Dieu cherche un lieu. Où trouver ce lieu? Verset 5 à la fin. J'ai trouvé un lieu. Ce lieu, ce sera mon peuple. Ce sera le cœur de mon peuple, le cœur de chacun des miens. Je vais venir habiter à lui. Allons à sa demeure. J'habite en eux. Je me prosterne devant son marchepied, le trône de grâce de Dieu en moi. Lève-toi, Éternel. Viens à ton lieu de repos. Le lieu de repos de l'Éternel, il est en toi. Viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Toi et ta foi. Viens, Seigneur, viens avec ta foi et qu'elle me remplisse. Il y a une invitation de la foi. J'ai une invitation vers le Dieu vivant à venir remplir mon lieu saint. Et j'invite l'arche, j'invite la foi. Viens, foi. Viens remplir mon être. Viens avec ta révélation. Viens avec ta connaissance. Viens avec ta richesse. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Que je sois revêtu de justice. Que tes fidèles poussent des cris de joie. Ne repousse pas ton oint à cause de David. J'accueille l'onction. J'accueille l'onction. J'accueille le oint Jésus et le oint Jésus me oint. Réponse du puissant de Jacob. C'est étonnant dans ce psaume. Il y a la prière et le cri de David et Dieu répond directement. C'est pas beau? Oui. Dieu dit oui, oui, l'Éternel a choisi Sion, oui, je t'ai choisi, je t'ai désiré pour ma demeure, tu es mon lieu de repos pour toujours, j'habite en toi car je l'ai voulu. C'est le cri de mon cœur, je bénirai ta nourriture, je te rassasirai de mon pain, je te revêtirai de mon salut, je fais de toi mon sacrificateur royal, et toi, mon fidèle, rempli de ma foi, tu pousseras des cris de joie. J'élèverai ta force, je te prépare mon onction, et je revêtirai de honte mes ennemis, et sur toi brillera ma couronne. Amen. Que son onction soit sur nous, que sa justice nous recouvre, que sa foi et sa grâce nous remplissent, que la honte soit sur nos ennemis, et que sur nous brille notre couronne. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te louons pour la foi que tu as fait habiter en nous, ce trésor de foi. Nous recevons le trésor de foi. En priant, je me rappelle un verset que je voulais partager. Le juste vivra par la foi. Et par la foi, c'est le par. Il y a plusieurs par la foi dans le Nouveau Testament. En particulier deux, c'est dia ou ek. Dia, ça veut dire par, au travers de la foi. Ek, ça veut dire à partir de la foi. À l'origine, il y a la foi. Et le juste vivra par la foi, le juste vit à partir de la foi qui habite en lui. Il vit d'une vie qui jaillit de la foi en lui. Tu tires ta vie de la foi qui habite en toi. C'est une foi jaillissante qui te fournit une vie jaillissante. Amen. Seigneur, nous accueillons la foi. Nous rejetons le doute, nous brisons nos fausses alliances avec tout le doute, avec la crainte et l'incrédulité. Et Seigneur, nous les clouons à la croix et nous les chassons au nom de Jésus. Et nous faisons alliance avec la foi qui habite en nous. La foi que tu as déposée comme un trésor, un saint trésor, un trésor de grâce, un trésor de gloire, qui brille de mille feux, qui est rempli de gloire, qui fait taire l'ennemi, qui fait écraser de terreur les ennemis, qui apporte la provision, la nourriture, qui apporte la présence et la gloire de Dieu. Nous faisons alliance avec cette foi dans nos cœurs. Et Seigneur, parce que la foi habite en nous, nous recevons Jésus-foi. Et Jésus-foi nous donne l'esprit de foi. Et nous parlons par l'esprit de foi. Et nous proclamons les bénédictions de la foi dans nos vies. Nous voulons devenir, Seigneur, les combattants de ta foi. Nous voulons devenir, Seigneur, les défenseurs de la foi qui habite en nous. Et Seigneur, nous combattrons le bon combat. Nous garderons cette foi. Nous combattons pour le bon dépôt qui habite en nous. Seigneur, nous t'adorons pour cette foi. Et nous te louons pour chacun de nos frères et sœurs qui a reçu une foi du même prix que la nôtre. Nous honorons la foi dans chacun de nos frères et sœurs. Je bénis votre foi. Je bénis la foi qui habite en toi. Je bénis cette foi. Je dis que c'est une foi qui vient d'en haut. C'est une foi du ciel. C'est une foi qui va bénir ta vie. Et c'est une foi qui va bénir la nation. J'honore ta foi. Je bénis ta foi dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si il est sorti, Fabrice. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa foi vous suive partout où vous allez. Et qu'elle brille dans votre vie, au nom de Jésus. Et on va voir vos couronnes. Amen.